L'heure de pointe, David Torchala.
Et bienvenue dans l'heure de pointe, le nouveau magazine de société de la rentrée sur Radio Présence. Voilà, vous nous écoutez dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers, dans le Béarn, en FM ou en DAB+. Ben, soyez les bienvenus. C'est la dernière ligne droite avant le week-end et ça, ça se mérite. Et puis on vous accompagne jusqu'à 19h. Alors avant de revenir sur les principales actualités de la semaine, j'ai le plaisir d'avoir près de moi ma chroniqueuse préférée. Bonjour Delphine Pereira.
Vous dites ça parce que je suis la seule.
Et oui, c'est
bonjour,
vrai.
Bonjour à tous.
C'est vrai, Anne Deslois, que l'on salue, a pris un peu de temps. Elle est partie à Nevers se promener.
Elle a bien raison et on lui souhaite un bon séjour et un bon repos.
Oui, c'est vrai qu'elle aille dire bonjour à Bernadette. Hein. Forcément, on était à Lourdes. Donc voilà, Delphine, vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi.
Oui.
Merci d'être avec nous. Alors cette semaine, vous êtes... pas vraiment toute seule, parce que nous avons aussi un invité. Bonjour Vincent Fonvieille.
Bonjour.
Voilà, vous êtes voyagiste dans le Val d'Azun, fondateur de la Balaguère, cette magnifique vallée, le Val d'Azun, hein, qui se situe à quelques kilomètres de Lourdes. Vous êtes également président de l'association Agora Pyrénées, un réseau d'hommes et de femmes, tous acteurs du massif pyrénéen dans toute la réalité de sa chaîne, voilà, qui va de l'Atlantique à la Méditerranée. Nous ferons connaissance avec vous. Et puis, on reviendra sur la troisième édition du rendez-vous Pyrénéo. Voilà. Restez avec nous. On commence. C'est l'heure de pointe.
L'heure de pointe, David Torchala.
Et dans l'actualité, cette semaine, cette actualité est lourde, hein, voilà tout juste 3 ans, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire, était assassiné à la sortie de son collège par un jeune islamiste radicalisé. Vendredi 13 octobre, Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français, a été tué à coups de couteau en s'interposant dans sa cité scolaire face à un autre jeune, lui aussi islamiste radicalisé. Conflans-Sainte-Aurine, Arras, en 3 ans, voilà, la France touché à 2 reprises au cœur de son système scolaire. 2 enseignants chargés de former des citoyens à l'exercice du libre arbitre, fondement de la démocratie, ont été tués de sang-froid par des agents d'une idéologie qui combat précisément des valeurs qui nous rassemblent, peut-on lire dans Le Monde cette semaine. Cette nouvelle tragédie ne peut que nourrir le chagrin et la colère des personnels de l'éducation nationale, enseignants en tête. L'ensemble du pays partage ses sentiments, hein, en particulier les parents, les familles des 12 millions d'élèves de l'éducation nationale. La journée de solidarité avec les professeurs qui s'est déroulée, c'était lundi 16 octobre, à l'initiative du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a été l'occasion non seulement d'un hommage aux professeurs d'Arras, mais d'une réflexion sur ce que signifie la répétition de telles attaques sur les moyens de les stopper. Alors si les islamistes font de l'école publique française une cible spécifique, c'est qu'elles visent un projet qui peut-être, on peut dire, leur est insupportable, une société où des personnes de toute croyance ou sans croyance d'ailleurs, hein, qui vivent en bonne intelligence, une société où les religions se respectent et cohabitent. La laïcité est précisément ce principe forgé au fil des années qui permet l'exercice de la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, vraiment la question se pose. Alors aujourd'hui, bah, ce sont les professeurs, hein, ils ont besoin d'être protégés, non seulement par des mesures de sécurité renforcées aux abords des établissements, mais aussi d'être protégé, peut-être aussi de la crainte d'être confronté au refus ou à la contestation de certains cours. Et on a peut-être trop longtemps minimisé ce phénomène.
Oui, des professeurs qui eux se freinent dans le ce qui fait le fondement de leur mission, c'est-à-dire la transmission, c'est-à-dire l'instruction, pour ne pas froisser certains ou certaines par peur, justement. Et puis c'est exacerbé ces derniers temps. Depuis 3 ans, on se dit que même l'école n'est pas protégée, parce que moi, ce que je me demande, c'est quels moyens, justement, pour empêcher quelqu'un qui est radicalisé, qui est motivé à ce point-là à assassiner des gens, parce que je pense que ce n'était pas le seul qu'il voulait atteindre. Mais je me demande quels sont les moyens dont on peut disposer? Je ne vois pas peut-être des CRS devant toutes les écoles ou des portiques ou des agents de sécurité. Il va falloir réfléchir très, très sérieusement à tout ça parce que je pense qu'on a longtemps cru que c'était un cas isolé. De temps en temps, c'est un cas isolé. Bon... ça arrive, il y a beaucoup d'émotions, on réagit sous le coup de l'émotion et on laisse filer après jusqu'à ce que ça recommence et c'est très inquiétant.
Oui, c'est vrai. Et puis en plus, ça a des répercussions ici chez nous. Enfin, c'est quand même une crainte qui, nationale qui s'étend d'établissement en établissement. Et puis il y a aussi, je crois, aussi la crainte de ce qui est finalement dans la sphère privée d'une salle de classe se retrouve aujourd'hui quand même sur les réseaux sociaux d'une manière assez publique. Ça, c'est il y a un côté assez effrayant. Hein.
Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on en discute, mais là, les réseaux sociaux, c'est l'un des nœuds du problème, de toute façon. C'est n'importe qui fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et on a beau dire qu'il y a des barrières, des garde-fous, c'est assez rare. Et je pense qu'il faudrait aussi commencer par là.
Et puis, est-ce que faut-il dire maintenant que le métier de prof est un métier à risque?
Oui,
est-ce qu'il
fait.
Faut le reconnaître? Voilà, il y a peut-être ça, mais bon, il faut quand même savoir reconnaître en eux leur expertise et puis leur rôle de formateur. Voilà, donc l'éducation nationale devrait peut-être, voilà, je sais pas, programmer dans la durée la revalorisation du métier des enseignants, hein, qui est quand même un dernier rempart contre l'obscurantisme.
Oui, et un rouage essentiel de la démocratie surtout aussi.
Et puis dans cette actualité grave de la semaine, c'est également les crimes perpétrés par les terroristes islamistes du Hamas, il y a une dizaine de jours maintenant, hein, qui ont endeuillé Israël et le monde. Ils ont été froidement planifiés et exécutés, ces crimes, par des hommes armés qui ont assassiné des familles. Et voilà, ils ont pris de nombreux otages. C'est une blessure faite à toute l'humanité, dit l'écrivain Tahar Ben Jelloun dans le Point. Ils ont exhibé leurs crimes à la face du monde pour en provoquer d'autres, terrorisés par l'horreur, entrer par effraction dans les cœurs pour y graver la peur, peut-on lire en édito cette semaine dans Ouest France. La France a fermement condamné les massacres du 7 octobre. Le Hamas est un mouvement terroriste qui expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ceux qui confondent la cause palestinienne et le soutien au terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique, a dit Emmanuel Macron. La France insoumise, quant à elle, continue de faire parler d'elle en refusant de qualifier le mouvement islamiste de terroriste, contrairement au reste de la classe politique. Aujourd'hui, ce sont une quinzaine de parlementaires de la France insoumise qui sont menacés de mort. Alors, comment combattre ce terrorisme? Déjà, peut-être en le nommant, le terrorisme est un crime au regard du droit canon musulman, rappelait l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, toujours dans Ouest France cette semaine. En comprenant ses ressorts, mais aussi en reprenant le contrôle des quartiers abandonnés à ses mouvances, en luttant contre sa propagande, contre ses sources et ses systèmes de financement, en développant une réelle politique d'immigration, d'intégration, voilà peut-être des pistes pour combattre ce terrorisme. Pour que la vie l'emporte, il faut écouter les voix qui jaillissent du fond de l'épreuve, telle cette mère juive qui, dans un appel bouleversant sur France 24, appelle les mères palestiniennes à prendre soin de sa fille otage. C'est absolument bouleversant de voir ces images et je voudrais dire que pour que la vie l'emporte, il est grand temps que se lèvent les artisans de paix.
Quelque chose de plus léger?
C'est dur, l'actualité est dure, mais c'est comme ça aussi l'actualité, ben ça s'enchaîne, on passe d'un sujet à l'autre, et, mais c'est pas pour oublier le sujet précédent, mais voilà, c'est aussi pour faire découvrir de belles initiatives. Delphine, vous êtes venue à côté avec un livre, Le Démerdeur, un livre signé par Jean-Christophe Gisbert. Pourquoi souhaitez-vous nous présenter ce livre?
Alors, c'est un amoureux des Pyrénées, Jean-Christophe Gisbert, et il a écrit plusieurs livres. C'est un ancien rédacteur en chef de la Dépêche du Midi aussi, je tiens à le souligner. Et il a sorti donc cet ouvrage qui s'appelle « Le Démerdeur ». Il a imaginé un village au pied du Pic du Midi où il pleut tout le temps. C'est pas lourde. Il pleut tout le temps, c'est un peu...
Bon, ça, c'est pas lourd, enfin.
Une ambiance à la Seven, mais nous avons donc un privé, un détective privé un petit peu, ouais, évidemment, alcoolique, qui se voit confier une mission par un couple... par un couple qui le charge de retrouver, contre une grosse rétribution, ses bouts de chou. Il pense d'abord que ce sont des enfants, et en fait, non, pas du tout. Ce sont des nains de jardin qu'il faut retrouver. Et il se lance dans cette quête par rapport à un peu du gain. Et c'est une histoire qui se lit très bien, très vite. C'est amusant. Parfois, c'est un petit peu plus sérieux. Et ce démerdeur, donc, il part à la recherche de ses bouts de chou, mais avec une associée qui s'impose un peu à lui. On comprendra à la fin. Je vais pas tout vous dévoiler. Et donc... et ils vont rencontrer des personnages un petit peu... Enfin, un petit peu très bizarre, à commencer par un gourou d'une secte qui s'appelle les Upside Downers, qui retient prisonnière des adolescentes dans une bergerie en montagne. Alors, il y a du meurtre, il y a des réseaux un peu borderline, etc. Et tout ça, ça donne une histoire assez pétillante. C'est sympa à lire, je le répète, parce que je l'ai lu quand même. Et donc, je ne peux que vous le conseiller. Donc, Le Démerdeur de Jean-Christophe Gisbert.
Aux éditions.
Aux éditions du Cairn.
Aux éditions du Cairn.
Je vous ai amené que des produits locaux aujourd'hui.
Ah, des produits locaux. ça va en plaire littérature. À Vincent Fonvieille, des produits locaux. Alors, produit 100% local.
Tout à fait, parce que là, il est né à Lourdes, il s'appelle Patrick Faure, et il en est à son quatrième ouvrage. C'est pas son métier, il est écrivain, mais c'est pas son métier, il aimerait bien, mais c'est un petit peu compliqué. Il travaille au Conseil départemental des Landes, et il s'occupe des affaires sociales, me semble-t-il. Et il a imaginé... amener le lecteur au cœur de la guerre 14-18. Ouais. Et donc, vous avez deux très jeunes personnages qui sont Léon et Léopold. Ils sont amis d'enfance et ils se sont retrouvés projetés dans cette guerre, ces horreurs et tout ce qui s'ensuit. Et l'auteur revient à Saint-Pé-de-Bigorre, parce que ça se passe à Saint-Pé-de-Bigorre. D'où où il a grandi, il est originaire de Saint-Pé-de-Bigorre aussi. Et Saint-Pé s'appelait, est-ce que vous connaissez le nom de Saint-Pé-de-Bigorre?
Oh là là, à l'époque, un village millénaire, Saint-Pé-de-Bigorre, bah non, je sais pas.
Alors ça s'appelait Générès. Ah. Voilà, alors j'ai découvert ça aussi. Et de nos jours, donc, un certain François, qui est le petit-fils de l'un de ces deux jeunes, se retrouve en possession d'un héritage qui est un carton à l'intérieur duquel il découvre un journal qui a été écrit par son grand-père. Et donc, il va refaire l'histoire, il va se plonger là-dedans. Puis, c'est dans des situations quand même tragiques. C'était la période qui voulait ça. Donc, plus particulièrement, sur le destin de ces nombreux jeunes soldats qui ont été fusillés pour l'exemple, parce que... Donc c'est un roman sur la mémoire collective, dit les éditions Passiflore, qui est une maison d'édition de Dax, et qui était présente au salon du livre pyrénéen qui s'est déroulé à Bagnères-de-Bigorre récemment.
Il y a quelques jours.
Et donc, qui traite aussi de la culpabilité, du rachat. C'est un hommage vibrant au pouvoir des mots capables de consoler et de réparer. J'ai trouvé ça très juste, de ce livre qui s'appelle... Là-bas, la forêt m'attend, puisque les deux jeunes hommes qui partent à la guerre sont forestiers à la base. Donc je ne peux que vous conseiller la lecture de ce très bel ouvrage que vous trouverez à la librairie Le Square, où normalement l'auteur devrait...
La librairie Le Square du centre-ville de Lourdes, voilà, notamment, mais peut certainement ailleurs.
Oui, et la librairie Le Square, la particularité, c'est qu'au début du roman, l'auteur fait référence au Square des Tilleuls, à Lourdes, puisqu'il avait l'habitude, c'est les lieux de son enfance, pardon.
Le Square des Tilleuls, il faut le dire, c'est au plein centre de Lourdes, à côté de la mairie, avec ce joli kiosque.
Et juste en face, donc, la librairie Le Square, où vous pourrez vous procurer ce très joli roman.
Redites-nous le livre, l'auteur, la maison d'édition.
Maison d'édition Passiflore, le livre Là-bas, la forêt m'attend et l'auteur Patrick Faure.
Là-bas, la forêt m'attend, merci. Voilà des idées de lecture.
Oui. Bon, ouais, c'est... Nous avons des auteurs talentueux, autant les mettre en avant.
Bon, bah, écoutez, ce soir c'est le week-end, vous pouvez aller librement vous ruer dans vos librairies. Pour le moment, nous, on marque une pause. Restez avec nous dans l'heure de pointe.
L'heure de pointe, David Torchala.
Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'heure de pointe, le nouveau magazine de société de Radio Présence à quelques heures ou à quelques minutes du week-end. Je suis en compagnie de Delphine Pereira, de la journaliste pour la Dépêche du Midi. Ça va toujours, Delphine ?
Je suis toujours là, je suis toujours très bien.
Oh, et puis nous avons la joie d'accueillir avec nous Vincent Fonvieille. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Ah, les montagnes, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes un amoureux de la montagne, je le disais tout à l'heure en première partie, vous êtes le fondateur de la Balaguère, voyagiste dans le Val d'Azun, c'est cette magnifique vallée qui se situe ici à quelques kilomètres de Lourdes, vous êtes également président de l'association Agora Pyrénées, un réseau d'hommes et de femmes, voilà, tous acteurs du massif pyrénéen, le grand, grand massif pyrénéen, voilà, qui va de l'Atlantique à la Méditerranée. Nous allons faire connaissance avec vous et puis nous reviendrons sur le succès de la troisième édition du rendez-vous pyrénéo qui s'est tenu d'ailleurs à Lourdes il y a quelques jours. Mais d'abord, pour faire connaissance avec l'homme que vous êtes, passionné par la montagne, d'où vous vient cette passion ?
C'est difficile. je crois que c'était quelque part dans mes gènes. Non, tout simplement, moi je suis un passionné de la beauté, de l'harmonie, de la nature, de la vie, d'une façon générale. Et en montagne, tout ça s'exprime et c'est peut-être ça qui m'attire. En tout cas, ça m'attire depuis toujours, depuis mon enfance, mon adolescence. Et j'ai voulu en faire un métier. Disons que j'ai eu la chance de pouvoir en faire un métier.
Et donc là, vous nous parlez d'il y a 40 ans, la fondation de la Balaguère. Est-ce que c'est ça ?
C'est ça.
Alors la Balaguère, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
La Balaguère, l'idée de départ, c'est tout simplement de cette passion pour la montagne, pour la montagne, la randonnée, la découverte, c'est en faire un métier en la partageant avec d'autres. C'est l'idée de départ. Je vous emmène découvrir la montagne, voilà. Et si vous voulez bien, me rémunérer un peu, voilà. Et je vais essayer de vivre de ça. C'est l'idée de départ. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné très vite. Hein. Donc voilà. Donc c'était le début les débuts du métier d'accompagnateur en montagne. Ouais. En fait, on a rencontré très vite notre public. C'était le début aussi de ce qu'on a appelé la randonnée. Au départ, on parlait plutôt de faire de la montagne, de faire de l'alpinisme. Mais le mot randonnée n'était pas trop employé. Et donc, voilà, on a innové. Et puis, il s'est trouvé que ça a fonctionné très vite. On a aussi... c'était pas simplement partir une journée en montagne et revenir. C'était partir plusieurs jours et vivre une histoire ensemble, au sein d'un groupe qui partage la même passion.
C'est sûr que partir une journée en montagne et y dormir, l'expérience est quand même totalement différente.
Et y dormir, mais vivre à plusieurs la même histoire. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à ce que les gens... Nos clients, que l'on avait du mal à appeler clients, parce qu'on vivait ensemble une histoire, et c'est ce qui a contribué à ce que les gens s'attachent à cette Balaguère.
Et vous allez bien au-delà des Pyrénées, vous allez à l'étranger aussi.
Oui, mais au début, dans les, on va dire, les 10 premières années, c'était essentiellement les Pyrénées. Mais on était des voyageurs nous-mêmes. Mais au bout d'une dizaine d'années, on s'est aperçu que la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre de ce métier l'été, mais l'hiver et au printemps et à l'automne, c'était plus difficile. Et donc on a décidé d'exporter notre savoir-faire ailleurs, et notamment au départ dans les déserts, et notamment dans le Sahara. Et c'est voilà. Et donc on est devenu voyagistes du Val d'Azun. Nous sommes devenus des spécialistes, par exemple, de la Mauritanie ou de l'Algérie ou du Mali. Vous voyez, c'est assez étonnant. Je voudrais bien revenir juste une seconde sur ce que vous avez dit en introduction, qui me touche beaucoup. Moi, dans mon métier, j'ai été amené à connaître plein de gens partout dans le monde, et notamment à travers cette activité de voyagiste au Sahara, beaucoup de musulmans sont mes amis. Et moi, j'ai une crainte, c'est de l'amalgame qui risque de se faire entre ces horreurs qui ont été perpétrées et qui l'ont été en Israël et en France, tout près de chez nous. Ce qui me fait peur, c'est qu'on fasse un peu l'amalgame entre ces fanatiques et la masse des gens, de ces musulmans qui sont des gens comme vous et moi, qui croient, qui ont foi en leur religion et qui vivent normalement et qui veulent la paix. Et voilà, c'est juste un petit message que je souhaite passer.
Évidemment, vous avez raison, pas d'amalgame, évidemment pas d'amalgame. Le fait de partir comme ça, proposer en plein désert un trek, une expérience, une marche, ça veut dire qu'il faut quand même partir, il faut défricher, enfin vous êtes avec une âme d'aventurier quand même.
Un peu, oui, bien sûr. L'idée de la balagueur au départ, c'est ça. Quand je disais que nous étions des passionnés de la nature, de la montagne, mais aussi de vivre une aventure, forcément. Et ça m'a pas lâché. Mais cette aventure, elle est, par rapport aux gens qui venaient avec nous, elle est quand même largement maîtrisée. C'est-à-dire que l'aventure, ça a été plus pour nous. Entrepreneur quelque part de la vivre, parce que en fait nous avons été, je le dis au passé parce que je ne suis plus en charge de la balaguer, j'ai passé la main, j'ai transmis, la balaguer est un organisateur de randonnées dans les Pyrénées et ailleurs dans le monde, mais pour tout ce qu'elle fait ailleurs, elle s'adresse à des gens qui sont un peu des balaguères en Mauritanie, au Maroc, au Népal, ailleurs, c'est-à-dire qu'à des spécialistes aussi et qui vont accompagner nos clients parce que ils sont chez eux, ils connaissent parfaitement leur pays, leur massif, et c'est comme ça qu'on va pénétrer avec eux, ils vont nous ouvrir les clés de leur pays. Et c'est ça qui est magnifique dans ce métier, d'ailleurs, c'est d'arriver à découvrir à la fois des paysages, mais surtout des hommes et des femmes et qui veulent vous montrer tout ce qu'ils ont de plus beau et qui vous partagent tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils n'ont pas, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, quelque part, vous vous recentrez aussi sur les Pyrénées, qui sont aussi un domaine vaste, qui est sans cesse à découvrir, à redécouvrir. Pour parler de votre actualité, vous êtes aujourd'hui président de l'association Agora Pyrénées. Quelle est la fonction de cette association ?
Je vais d'abord faire le lien entre ce dont on vient de parler et Agora. Pendant tout ce temps, effectivement, même si nous organisions des voyages à l'étranger, les Pyrénées restaient notre terre à nous, notre terroir. Mais pour moi, être spécialiste des Pyrénées était forcément et fortement lié à l'image qu'en ont les gens de ce massif pyrénéen. Et donc, pour moi, je me suis impliqué depuis très longtemps dans le façonnage de cette image. C'est-à-dire que c'est... Et je me suis impliqué pour que l'on essaye de donner de ces Pyrénées une image qui soit plus conforme à ce qu'elle est, c'est-à-dire des montagnes qui ne sont pas seulement là l'hiver pour les skieurs, mais qui existent par elles-mêmes, que l'on peut fréquenter toute l'année, où il y a des gens qui vivent. Donc c'est pour ça que je me suis battu pendant toutes ces années. Et Agora, c'est ça. Agora, c'est une association de gens qui sont reliés par l'amour, la passion des Pyrénées. Et on y trouve des entrepreneurs, parce que c'est le point de départ, des associations, des citoyens, des élus, des institutions, qui ont en commun cela, c'est-à-dire l'attachement très fort aux Pyrénées, et qui veulent que ces Pyrénées soient prises en compte dans toute leur totalité, géographiquement, parce qu'on avait, on a découpé, l'administration a découpé les Pyrénées en départements, en régions, mais c'est cette, la difficulté, c'est ça, c'était d'arriver à parler des Pyrénées et à montrer les Pyrénées dans toute leur globalité. Alors je fais ce geste qu'on ne voit pas à la radio, d'est en ouest, mais donc versant nord, mais aussi nord et sud, parce que les Pyrénées ont deux versants, comme vous le savez.
Oui, et c'est on la France tendance, et c'est l'Espagne.
Et on a tendance à l'oublier. Et donc voilà, l'idée de départ, c'est celle-là, et d'arriver, parce que Agora Pyrénées, est le nom que ça n'est pas le nom que l'on a donné au départ. Au départ, l'association s'appelait Une marque pour les Pyrénées. C'est-à-dire que l'association s'était donnée pour objectif de la création d'une marque de territoire pour les Pyrénées. Justement, cette marque qui devait symboliser tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ses valeurs, tout ce qui fait son attractivité, ses combats, tout ce qui peut permettre de fédérer tous les acteurs pyrénéens. Donc voilà, donc vaste entreprise.
Et c'est donc ça qui a amené à cette édition de Pyrénéo, en fait, cette opération Pyrénéo, justement pour renforcer peut-être cette image qu'il faut développer auprès du plus grand nombre.
Alors, il y a deux choses. Agora Pyrénées, c'est l'association et qui travaille aux côtés de l'Agence des Pyrénées. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc l'association a pour objectif la création d'une marque. Ça y est, la marque, on y a travaillé pendant des années et on l'a montrée à Pyrénéo, on l'a dévoilée, lancée. Mais la marque ne sera qu'un outil au service d'un projet, sinon ça ne sert à rien. Et par ailleurs, dans nos cartons, dans les cartons d'Agora Pyrénées, parce qu'Agora, on fonctionne comme son nom l'indique, une agora, on dit un think tank en patois, c'est ça. Et donc on brasse des idées, on imagine tout ce que l'on peut faire pour ce... Et je rentrerai dans le détail après, mais c'est dans ces idées-là, enfin il y avait celle de créer un grand rendez-vous annuel, régulier, où les Pyrénéens se retrouvent. Parce que ça n'existait pas, mais on sentait ce besoin chez les Pyrénéens. Nous, par exemple, à la Balaguère, on avait besoin de ça, de se retrouver entre tous les Pyrénéens. Et donc, on a imaginé ce rendez-vous qui s'est tenu la première année en 2021, donc c'était bien la troisième édition, dans les Pyrénées-Orientales, puis l'année dernière au Laurent-Sainte-Marie, et cette année à Lourdes.
Alors, donc les Hautes-Pyrénées qui ont été à l'honneur, et vous avez été aussi en association, donc vous l'avez dit, avec l'Agence des Pyrénées. Est-ce que vos deux associations, quelque part, ont les mêmes réalités? En tout cas, elles ont le même but. Est-ce que vous pouvez peut-être parler des confrères de l'Agence des Pyrénées?
Oui, bien sûr. Alors, c'est plus que des confrères, ce sont des partenaires, des indispensables.
D'accord.
En fait, Agora Pyrénées est une association qui est une représentation de la société civile, mais avec peu de moyens. Nous, comme je vous l'ai dit, on est plus un think tank, un lieu où on débat, où on réfléchit, où on fait des propositions d'action, on en mène quelques-unes. Et à côté de cela, l'Agence des Pyrénées est une institution, c'est à la forme associative, mais c'est une institution qui existe depuis 2021 et qui est la fusion de trois structures qui existaient depuis longtemps. Une, la Confédération Pyrénéenne de Tourisme, qui existe depuis plus de 100 ans, vous vous rendez compte, et qui faisait la promotion des Pyrénées, des stations thermales, des stations de ski.
Ah oui, donc, c'est cher aux Pyrénéens.
Voilà. Et deux autres structures pyrénéennes, la DEPFO, qui accompagne les acteurs par la formation et la formation-développement, et une autre qui s'appelle le CIDAP, et qui, elle, se dédiait au désenclavement numérique, on va dire, des Pyrénées. Et ces trois structures ont fusionné pour créer l'Agence des Pyrénées, qui continue à mener les projets que ces trois structures menaient auparavant, mais qui ont partagé avec nous ces envies et ces projets que sont la marque des Pyrénées, la marque Pyrénées, et Pirineo, entre autres. Et il y en aura d'autres. D'autres projets pour faire avancer les Pyrénées. Avec, d'un côté, donc, une association, comme je vous l'ai dit, et une institution qui, elle, a des moyens humains, des moyens financiers, et qui dont la gouvernance est constituée des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, des départements et quelques représentants de la société civile. Donc, quelque chose de solide.
On l'a bien entendu, fédérer les acteurs dans toute leur réalité, mais c'est quand même immense. Enfin, par quel bout prendre la chose et comment commencer? Est-ce que concrètement, à la suite de cette troisième édition de Pyrénéo, il y a des pistes concrètes d'action?
Oui, mais on y travaille depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire avant... Avant Agora Pyrénées, il y avait l'association Une Marque pour les Pyrénées. Et avant, il y avait l'association, le regroupement des chambres de commerce et d'industrie des Pyrénées, qui s'appelle CICEI Pyrénées, et au sein de laquelle nous avons travaillé, préparé le terrain, c'est-à-dire travaillé sur les valeurs communes aux Pyrénéens, sur quelle ambition collective on pouvait avoir, sur les représentations que l'ensemble de ces gens-là se faisaient des Pyrénées, pour savoir d'abord s'il y avait de la matière, s'il y avait une faisabilité. Et ensuite, on s'est mis à travailler sur ce qu'on avait envie de faire ensemble. Et depuis 2 ans, on y travaille avec l'Agence des Pyrénées, et les choses se sont accélérées. Donc on a, en gros, on travaille sur 4 champs. Le premier, c'est le développement économique dans les vallées des Pyrénées. Ce qui nous intéresse, c'est que les Pyrénées soient vivantes, soient habitées, que les gens y vivent et y travaillent. Et donc on travaille à ça. Le deuxième axe, c'est travailler dans les Pyrénées, oui, mais sans casser le patrimoine naturel exceptionnel. Donc préserver, c'est le deuxième axe. Préserver l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, ça c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est, vous l'avez dit, c'est immense, ces Pyrénées. Et donc c'est comment on crée du lien entre tous ces acteurs qui ne se connaissent pas vraiment, hein, entre les Catalans, les Basques et les Bigourdans. Et donc, c'est un certain nombre d'actions pour créer du lien entre tous ces gens-là. Donc, Pyrénéo fait partie des actions que l'on mène pour cela. Et enfin, le quatrième axe, c'est le rayonnement. C'est-à-dire, une marque, ça sert de drapeau fédérateur, mais ça sert aussi à faire connaître, à montrer, à donner envie aux gens de venir s'installer, à donner envie à ceux de venir en vacances. Ça donne envie aux gens de rester là au cas où ils auraient envie de partir. Voilà, on est dans ce domaine aussi de l'attractivité.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous travaillez depuis des années, vous travaillez toute l'année, et des opérations comme Pyrénéo, c'est on met les choses en commun, on voit où on en est, on fait un petit bilan, et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe.
C'est un peu ça. Alors, il y a aussi des outils de communication. Hein. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a des lettres que l'on envoie régulièrement. Il y a tout ça qui permet aussi aux gens de s'informer, de se mettre à niveau de ce qui se fait. Pyrénéo, c'est en fait un moment de rencontre physique pour que les gens se voient. Et c'est un moment où on débat, où on échange sur des sujets importants, celui qui vient de se passer. Eh bien, on a décidé de parler de grands thèmes qui sont l'hospitalité dans les Pyrénées, l'innovation. On avait Jean Viard comme invité, qui nous a aidé à réfléchir à ces sujets, et Ariane Cronel. Et puis, on part par petits groupes, par ateliers, on réfléchit sur des sujets plus pointus. Par exemple, comment l'hospitalité va donner un nouveau souffle au tourisme pyrénéen. Comment on fait pour développer le Made in Pyrénées. Comment l'hospitalité, parce qu'on était, c'était le thème général, et comment l'hospitalité nous aide à accueillir les nouveaux arrivants dans les Pyrénées et à ce que tout ce beau monde fasse communauté. Vous voyez, on est sur ces sujets-là, et il y a eu un moment très important aussi où on a essayé, sous l'animation des étudiants de Pau et de Tarbes, on a travaillé ensemble à comment les Pyrénéens peuvent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent pour participer à lutter contre ce réchauffement climatique. Vous voyez, on est très concret, hein.
C'est vrai, parce que spontanément, les Pyrénées, ben, on peut y penser tourisme et se dire, on a parlé de climat, ça doit forcément interpeller aussi leur manière hospitalière aux Pyrénées d'accueillir le public. Il y a quand même, je ne sais pas si le mot stratégie est un mot, mais en fait, il y a quand même un plan neige et un plan été. Est-ce que le changement climatique bouleverse la façon d'accueillir aussi dans les Pyrénées ?
Ah ben, bien sûr, vous imaginez bien qu'on ne peut pas rester sur cette stratégie-là.
Parce que c'est dire qu'il y aura peut-être plus ou, enfin, moins ou plus de neige dans les Pyrénées ?
Ah ben, de toute façon, il y en aura moins et un jour, il n'y en aura plus. Enfin, je pense que c'est pas trahir un secret.
Hein,
je
pense pas.
Et donc, on avait parlé de le mot à la mode ces derniers temps, c'était le mot de transition. Il va falloir, réfléchir à des transitions. Donc sur les activités, les adapter. Et le mot qui a été employé notamment par Jean Viard, ça a été le mot bifurcation. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à bifurquer vers autre chose en matière de tourisme, mais pas seulement en matière d'accueil. Les Pyrénées vont devenir un havre de fraîcheur par rapport à d'autres bassins, mm-hmm. notamment Toulouse. Comment on va accueillir ces gens-là? Comment ça va se passer? Il faut anticiper sur ces questions, celles qui sont liées au réchauffement climatique. Hein. Mais toutes ces questions-là sont importantes. Elles concernent l'ensemble des Pyrénéens, pas seulement les politiques. Hein, ça concerne les entreprises, ça concerne les citoyens. Et donc, on a intérêt à y réfléchir tous ensemble.
Au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, comment vont les éleveurs? Est-ce qu'il y a toujours autant d'activités? Parce que c'est quand même une richesse de notre patrimoine pyrénéen. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils participent avec vous?
Ils sont là. Alors, ils étaient là, bien sûr. Et cette année, un petit peu moins au cœur des débats, mais l'année dernière, on avait eu une séquence sur le pastoralisme, parce qu'on était à Oloron-Sainte-Marie, c'était peut-être. Mais bien sûr, l'agriculture et les agriculteurs sont au cœur de nos réflexions, de nos débats. Et pour répondre plus à votre question, il y a, dans les Pyrénées, il y a des zones où le pastoralisme est très présent et d'autres où il l'est moins. Mais bon, il est compensé par d'autres activités. Hein. Moi, je ne me fais pas de soucis pour le développement et le maintien de l'agriculture de montagne. Hein. Je pense que ça va aller en se développant. Bon, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, hein, parce que ça ne dépend pas que de nous ici. Ça dépend aussi de Bruxelles, des habitudes des consommateurs, enfin on sait de plein de choses. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience des agriculteurs des Pyrénées, qui sont organisés d'ailleurs sur la chaîne des Pyrénées, eh ben de mener les combats qui les concernent. En tout cas, ils y sont attachés et je les trouve particulièrement efficaces.
Alors moi, je vais chercher le scoop ou Pyrénéo l'année prochaine.
On a des envies là qui se manifestent. Ça sera de toute façon plus à l'est.
Vous allez cheminer dans le massif.
Oui, mais je ne sais pas si on prendra la ligne droite
ou s'il y aura des virages.
On ne sait pas encore.
Certainement en France. Ouais. On aurait pu aussi être en Espagne, Pyrénées. Ouais.
Ça le sera sûrement.
Merci Vincent Fonvieille d'être venu nous parler du massif pyrénéen dans toute sa diversité, tant pour le tourisme, tant aussi le fait d'y vivre, de s'y sentir bien, de s'y développée. Nous, on vit dans les Pyrénées.
Hein, oui, et on y est très bien.
Oh ben ouais, nous, on est heureux. Merci beaucoup.
Merci.
Si on veut en savoir plus, Agora Pyrénées, l'agence des Pyrénées, Pyrénéo, on a parlé communication, il y a de magnifiques supports qui sont mis en place et mis en ligne, tant sur les réseaux sociaux. Vraiment, allez voir, c'est beau d'avoir prendre le temps de se poser et de regarder loin pour voir les développements possibles. Vraiment, voilà, merci.
Tout à fait, comme quoi il y a de très belles choses sur les réseaux sociaux aussi.
Oui, c'est vrai, il y a de très belles choses. Voilà, bah écoutez, l'heure de pointe, c'est terminé pour cette semaine. Le week-end peut commencer. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, ce week-end, Delphine ?
Oh, lire, me reposer.
Oh, bah c'est bien, bah oui, c'est vrai, vous avez... Oui. Elle aime lire, hein, elle a su nous le dire cette semaine. Bah écoutez, moi je vais aller à Pau parce que Octobre Rose continue.
Oui, c'est vrai aussi.
Et il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives à Pau. J'ai vu qu'il y a une marche solidaire, des marchés de créateurs.
Vous avez
il y a
bien
plein,
écouté
plein, plein.
Anne.
Oui, j'ai bien écouté Anne, qu'on embrasse et qu'on retrouvera la prochaine fois. Merci à tous et à bientôt.
À bientôt.
L'heure de pointe, David Torchala.